Donc nous poursuivons cette réflexion sur les passions et les vertus en nous servant d'un livre qui est celui de Jean-Claude Larchet, Thérapeutique des maladies spirituelles. Et aujourd'hui nous regardons à la fois la passion de vanité et puis la vertu d'abaissement. J'ai choisi une belle illustration bien française pour ce qui concerne la vanité. La vaine gloire ou vanité est une passion particulièrement importante, source de nombreuses autres maladies de l'âme. Saint Jean Cassien note qu'elle varie beaucoup ses formes et se divise en différentes espèces, mais se réduit toutefois à deux genres qui sont comme deux degrés. Le premier, première espèce de vanité, conçoit l'élèvement pour des avantages charnels et apparents. C'est la forme la plus grossière de vanité, celle qui affecte l'homme déchu le plus immédiatement, le plus facilement, le plus couramment. Elle consiste à se montrer fier et à se glorifier des biens que l'on possède ou que l'on croit posséder, et à désirer d'être vu, considéré, admiré, estimé, honoré, loué, voire flatté par les autres hommes. Le vaniteux peut ainsi se glorifier et désirer l'admiration d'autrui pour les dons que la nature lui a octroyés, comme la beauté réelle ou supposée de son corps ou de sa voix, par exemple, mais aussi pour son allure, sa prestance, tout ce qui contribue à lui donner belle apparence, ses vêtements, le parfum, les bijoux, etc. Il peut aussi se glorifier et attendre la considération pour son habileté manuelle ou son savoir-faire dans tel ou tel domaine. C'est souvent poussé par la vanité que l'homme veut atteindre une situation et un rang social élevé. Cette passion l'attache encore au pouvoir sous toutes ses formes et se trouve fréquemment être la cause de sa recherche. Elle est alors l'allié et le moteur des deux passions que les pères nomment amour du pouvoir et esprit de domination. À un plan plus subtil, la vanité consiste pour celui qui en est le sujet à se montrer fier de ses qualités intellectuelles, de son intelligence, de son imagination, sa mémoire, etc., mais aussi de sa connaissance ou de son savoir, de sa maîtrise du langage, de sa capacité à bien discourir ou écrire, etc., etc., etc. Et à rechercher pour cela l'attention, l'admiration et les louanges d'autrui. Il apparaît que l'ambition dans les domaines intellectuels et culturels, aussi bien que dans le domaine politique ou financier, est le plus souvent un produit de la vanité. La seconde espèce de vanité, distinguée par Saint Jean Cassien, s'enfle du désir d'un vain renom pour des biens spirituels et cachés. Chez le spirituel, encore soumis aux passions, elle coexiste avec la première espèce, où prend place lorsqu'il a dépassé tout attachement aux biens mondains. Elle consiste pour lui à se glorifier en lui-même ou devant les autres hommes de ses vertus ou de son ascèse et à rechercher pour elle l'admiration et les louanges d'autrui. Saint Maxime fait remarquer « Si tu as raison des passions plus honteuses, tout de suite les pensées de la vaine gloire fondent sur toi. » La vanité est alors capable de prendre à elle seule dans l'homme la place de toutes les autres passions réunies. La vanité possède un extraordinaire pouvoir. Son caractère subtil, sa capacité à revêtir de nombreuses formes, à se glisser partout et attaquer l'homme par divers côtés, la rendent particulièrement difficile à percevoir et à combattre. Tout, en effet, peut constituer pour l'homme un sujet de vanité. Les anciens, écrit Saint Jean Cassien, ont joliment décrit la nature de cette maladie en la comparant à un oignon. Quand on lui ôte une peau, on en retrouve aussitôt une autre. Et autant on en retire, autant on en retrouve. Dès lors, constate Évagre, il est difficile d'échapper à la vanité, car cela même que tu fais pour t'en débarrasser devient pour toi une nouvelle source de vanité. Le caractère pathologique de la vanité, comme celui de toutes les autres passions, tient essentiellement à ce qu'elle est constituée par la perversion d'une attitude naturelle et normale. Il a été donné par Dieu à la nature de l'homme de tendre vers la gloire. Mais c'est la gloire divine qu'il était destiné à obtenir par son union à Dieu, et non la gloire humaine que recherche la passion et que la tradition appelle « gloire selon la chair ». Saint Jean Climac enseigne dans le même sens « Notre âme naturellement a de l'amour pour la gloire, mais ce doit être pour celle du ciel et non pour celle de la terre ». Cette distinction entre les deux sortes de gloire, saint Paul s'y réfère implicitement lorsqu'il dit se glorifier en Jésus-Christ tout en mettant en garde contre le danger qu'il y aurait à se glorifier en dehors de Dieu. La recherche de la gloire mondaine apparaît ainsi comme la façon dont l'homme compense misérablement en lui l'absence de la gloire céleste et de ce qui, l'unissant à Dieu, le rend participant de cette gloire divine, à savoir les vertus. Saint Dorothée de Gaza écrit « Ceux qui désirent la gloire ressemblent à un homme nu qui ne cesse de chercher un lambeau d'étoffe ou n'importe quoi pour couvrir son indécence. Ainsi, celui qui est dénué des vertus cherche la gloire des hommes. » La vanité apparaît donc bien au total comme constituée par une perversion, par un détournement pathologique de la tendance naturelle de l'homme à la glorification, et comme un comportement pathologique de substitution consécutif à une frustration ontologique. Celui qu'elle affecte se met à avoir foi dans les hommes dont il attend attention, estime, admiration, louange, et dans tout ce qui est susceptible de susciter en eux ses attitudes à son égard. C'est pourquoi saint Jean Climac qualifie le vaniteux d'idolâtre. De même saint Macaire qui note « Les hommes qui font son éloge, ce sont eux qui sont ses dieux. » Le vaniteux ignore la valeur véritable des choses dont il tire gloire, comme de cette gloire elle-même. Il leur accorde une réalité et une importance dont elles sont en vérité dépourvues. Il fait comme si elles avaient une valeur absolue et durable, alors qu'elles sont éminemment fragiles, provisoires. Il ignore que seule la gloire divine est parfaite et éternelle, et que les motifs spirituels de glorification en Dieu sont les seuls à être authentiquement réels. La vanité paraît ainsi inclure une vision délirante de la réalité. Par elle, en effet, l'homme s'attribue des qualités et des vertus qu'il ne possède pas et ne voit pas les défauts et les passions qui l'habitent en réalité. Mais il s'illusionne également lorsqu'il se glorifie des vertus qu'il possède véritablement. La vanité voue celui qu'elle habite à toutes sortes de maux. Cette passion détruit la paix intérieure en agitant l'âme de bien des manières. Elle entretient, note Isaac, le trouble continuel de la confusion des pensées. Et saint Marc le Moine remarque « Dès que tu perçois une pensée te faisant miroiter la gloire humaine, sache bien qu'elle te prépare la confusion. » La vanité a pour autre effet dangereux et redoutable de plonger l'homme dans un monde de fantasmes. Saint Isaac le Syrien note que ceux qui sont portés par la vanité en perdent la raison. Sous son aspiration, en effet, l'homme s'imagine avoir toutes sortes de qualités, de vertus, de mérites, de biens, etc. Se représente lui-même dans des situations ou des états qui lui valent considération et louange. La vanité, notre saint Isaac, invente et imagine des personnages et porte à désirer et à se projeter. Cela a pour première conséquence pathologique de détacher l'homme de la réalité qu'il vit. Ce processus qui consiste à fantasmer peut être à l'origine, s'il est entretenu et développé, de bouffées délirantes aiguës ou d'hallucinations. Évagre constate l'origine des illusions de l'esprit, c'est la vanité. Sur le plan spirituel, les effets pathologiques de la vanité sont très étendus. Elle détruit toutes les vertus que l'homme a acquises et rend totalement inutiles tous ses efforts ascétiques. La vanité, écrit saint Jean Cassien, est une nourriture qui flatte l'âme pour un temps, mais ensuite la rend vide, sans vertu et nue, la laissant stérile et privée de tous les fruits spirituels, en sorte que non seulement elle détruit le mérite de peines considérables, mais qu'elle lui vaut même des supplices plus grands. Les pères, nous l'avons vu, la rangent parmi les trois passions génériques qui sont la source de toutes les autres. Saint Marc le Moine la qualifie de racine des mauvais désirs, de cause de tous les vices, de mère des maux, et enseigne qu'elle mène naturellement à l'esclavage du péché. En vis-à-vis, regardons la vertu d'abaissement. Saint Jean Climac la considère, la vanité, comme le plus difficile et le plus dangereux de tous les pièges. La thérapeutique de cette maladie spirituelle s'avère donc d'emblée particulièrement délicate. Tous les vices s'étiolent une fois dominés, et lorsqu'ils ont été vaincus, s'affaiblissent de jour en jour. La vanité, une fois qu'on l'a abattue, se relève pour combattre plus âprement. Et alors qu'on la croit éteinte, elle trouve dans sa mise à mort un surcroît de force. Les autres vices n'attaquent généralement que ceux qu'ils ont déjà vaincus, mais celui-ci poursuit plus âprement ses vainqueurs, et plus on l'a écrasé énergiquement, plus il profite de la fierté de son vainqueur pour l'attaquer plus violemment, dit saint Jean Cassien. Celui qui entreprend la thérapeutique de la cénodoxie, de la vanité, devra donc faire preuve, du début jusqu'à la fin, d'un grand discernement spirituel et d'une vigilance constante. Parce que la vanité est recherche de gloire humaine, mondaine, terrestre, l'homme qui veut vaincre cette passion doit reconnaître l'inanité d'une telle gloire, en prenant notamment conscience de l'inconsistance de ses fondements et du néant des buts qu'elle poursuit, comme le soulignent maintes fois les pères. La mort révèle la pleine mesure de la vanité et du néant des choses humaines que la vanité a pour objet, et en même temps qu'elle est le moment crucial où le jugement divin est signifié à l'homme. C'est pourquoi la mémoire de la mort est elle aussi une arme efficace contre cette passion. Parce que la vanité est recherche de considération, de renommée, d'honneur, de gloire, il convient de renoncer à tout ce qui peut en être la source ou l'occasion. Il faut fuir ceux qui sont manifestement sous son emprise et constituent un exemple néfaste. Il faut refuser pour soi-même toute fonction honorée des hommes, en raison notamment du pouvoir ou du prestige qu'elle confère, repousser toute distinction susceptible de s'attirer admiration ou louange. La vanité étant désir d'être remarquée, il convient même d'éviter ce qui peut nous singulariser dans nos paroles comme dans nos actes et nos comportements. Celui qui veut être délivré de la vanité doit au contraire tout faire pour devenir ou pour rester ignoré des hommes. Le choix d'une condition obscure, mais aussi la recherche de la solitude, peuvent y contribuer. Vis-à-vis des autres hommes, dont la vanité attend admiration et louange, il convient de ne rien laisser voir de son ascèse, ni des vertus que l'on possède, ni des actes qui les manifestent. Dans ce sens, saint Maxime écrit « La vanité est supprimée par l'action cachée ». On doit veiller, en contrôlant soigneusement son comportement et ses paroles, à ne rien laisser paraître de son état intérieur, à ne rien révéler de sa vie spirituelle. C'est ainsi que saint Jean Climac conseille « Sois zélé dans ton âme sans rien en manifester, dans ton corps, que ce soit par ton apparence extérieure ou par un mot ou par un sous-entendu. Partout où tu iras, tu cacheras ta manière de vivre. » Ailleurs, il écrit « Le commencement de la victoire sur la cénodoxie, sur la vanité, est la garde des lèvres. » D'une manière générale, et c'est là un remède fondamental contre la vanité, l'homme doit accepter d'être humilié et même rechercher ce qui est susceptible de lui valoir le mépris. Le commencement de la victoire sur la cénodoxie est l'amour des humiliations, écrit saint Jean Climac. Le Seigneur ramène souvent les vaniteux à l'absence de vaine gloire au moyen de quelque humiliation qui leur arrive. Le signe que l'homme est guéri de la vanité, c'est qu'il n'éprouve plus de peine à être humilié en public, ni n'a plus de rancune à l'encontre de celui qui l'a offensé, méprisé, insulté, qui a dit ou dit encore du mal de lui. Mais la vanité est aussi une passion par laquelle l'homme s'estime, s'admire et s'honore lui-même et se glorifie à ses propres yeux. Pour la combattre à ce niveau, l'homme doit tout d'abord ignorer son ascèse et ses vertus, cacher à ses propres yeux ce qu'il a de bon en lui et ce qu'il a fait du bien. Saint Jean Chrysostome fait remarquer que le Christ, après avoir blâmé la vanité, apporte le remède à une âme frappée de ce mal en commandant « Que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite ». Lors même qu'il aurait accompli toute la volonté de Dieu, l'homme devrait, comme le recommande le Christ, se considérer comme un serviteur inutile qui n'a fait rien de plus que ce qu'il devait faire. C'est là encore un moyen donné par les pères pour éviter la vanité. Mais bien avant cela, l'homme doit examiner sa conscience et considérer combien il est éloigné d'avoir accompli tous les commandements. Avant cela encore, il doit se souvenir de ses péchés et les pleurer, ce qui coupera court à la vanité, aussi bien par rapport à lui-même que par rapport à autrui. Si nous ne perdons pas de vue nos péchés, les biens extérieurs ne pourront jamais enfler nos âmes. Les richesses, la puissance, le rang suprême, les dignités, les honneurs n'auront sur nous aucune influence, fait remarquer saint Jean Chrysostome. Et saint Jean Climac conseille quand nos flatteurs commence à nous louer, remettons-nous brièvement en mémoire la multitude de nos péchés et nous nous reconnaîtrons indignes de ce qui se dit ou se fait en notre honneur. Notons enfin le rôle essentiel que joue la prière dans la guérison de la vanité comme de toute passion. Par la prière, l'homme reçoit de Dieu l'aide sans laquelle il reste impuissant à vaincre quelque passion que ce soit. Mais dans le cas de la vanité, il reçoit en outre le discernement qui lui est nécessaire à déjouer tous les pièges qu'elle lui tend. La prière lui permet également de se détacher de ce monde que la vanité a pour objet et de s'attacher à Dieu. Elle lui permet enfin de glorifier Dieu en reconnaissant qu'à lui revient toute gloire, honneur et adoration. Nous avons remarqué que la gloire qui vient des hommes et la gloire qui vient de Dieu sont antagonistes et exclusives l'une de l'autre. Si l'homme doit renoncer à toute gloire humaine, c'est afin d'avoir accès à la gloire divine à laquelle le destine sa nature. Tant qu'il reste attaché à la gloire terrestre, il ne peut aucunement goûter à la gloire céleste. Comme le feu n'engendre pas la neige, ainsi, ceux qui cherchent la gloire d'ici-bas n'en jouiront pas là-haut, note saint Jean Climac. C'est pourquoi l'humiliation est la voie obligée, la condition indispensable pour participer à la gloire divine. C'est dans ce sens qu'un ancien conseille « Si tu veux être connu de Dieu, sois ignoré des hommes ». L'homme, nous l'avons vu, tend par nature à la gloire. Mais la gloire qui vient de Dieu est la seule qui lui convienne véritablement. Ainsi, il doit se glorifier exclusivement en Dieu, conformément à la parole de l'apôtre. Nous nous glorifions en Jésus-Christ et ne mettons point notre confiance en la chair, Philippiens 3. Plus l'homme tend la gloire divine, plus il se désintéresse de la gloire qui vient des hommes. Et c'est pourquoi l'amour de Dieu et de sa gloire apparaît comme un moyen de délivrer l'âme de la vanité. C'est ainsi que saint Jean Climac conseille « Efforçons-nous de ne goûter que la gloire d'en haut. En effet, celui qui l'a goûté méprisera toute gloire terrestre. » Il n'en reste pas moins vrai que l'antidote spécifique de la vanité est l'humilité. Ainsi, saint Dorothée de Gaza écrit « Le médecin de nos âmes, c'est le Christ, qui sait tout et donne à chacun, à chaque patient, le remède approprié, je veux dire ses commandements, contre la sénodoxie, l'humilité. » Saint Jean Climac écrit « Dès que la sainte humilité commence à fleurir en nous, nous nous mettons aussitôt à haïr toute gloire et toute louange humaine. » Et saint Maxime « L'humilité libère l'esprit de la vanité. » Et nous verrons par la suite que bien des moyens recommandés par les pères pour lutter contre la vanité sont des moyens recommandés par eux pour acquérir l'humilité.